Un podcast de France Culture.
Deuxième épisode. À la source de la bombe bactériologique.
Protests turned fiery. Citizens blamed Nepalese peacekeepers for bringing the deadly waterborne disease cholera to Haiti.
Lorsque je fais mon enquête, le climat est quand même très compliqué. À la mi-novembre, il y a des émeutes. La population est convaincue que c'est les soldats qui ont amené le choléra. Et elle est d'autant plus convaincue qu'on s'aperçoit assez rapidement qu'au moment où les soldats partaient du Népal, il y avait une épidémie de choléra au Népal.
This is what you see when you land in the riots. He says they're harming the delivery of aid to innocent.
Donc le climat est très lourd, c'est compliqué d'aborder ces sujets, mais je travaille avec le ministère de la Santé, je travaille avec l'ambassade de France, donc on va rencontrer le chef de la MINUSTA, la mission des Nations Unies, et je lui explique la situation, et j'explique que le choléra a bien commencé aux alentours du camp militaire et que il est difficile de penser qu'il y ait une autre origine que les soldats eux-mêmes. Il l'écoute très bien, il se rebelle pas contre cette information, mais deux jours plus tard, il me redemande, et là, je passe une espèce d'oral face à un jury composé de militaires et de hauts responsables de l'ONU, à l'OMS, l'UNICEF, et surtout l'état-major de la MINUSTA. Et il m'interroge, me repose les questions. Ça se passe en anglais, c'est moins facile. Et puis ensuite, ils font rentrer des médecins qui sont allés voir ce qui se passait dans ce camp, et qui disent que, en tout cas, eux n'ont rien vu de spécial. Tout allait bien. Semble-t-il, il n'y avait pas de malades. Et ils ont fait des prélèvements, tout était propre, tout était stérile. Et là, plusieurs enseignements. Je comprends qu'il y a une résistance d'ordre politique, et je vais mettre pas mal de temps quand même à comprendre comment se constitue cette résistance. L'OMS en particulier et les CDC. Les CDC, c'est les Center for Disease Control qui travaillent aux États-Unis à l'investigation des épidémies, expliquent que finalement, c'est pas important de savoir l'origine de l'épidémie. On sait que c'est pas les humanitaires, c'est pas des gens de l'extérieur, mais on aura du mal à trouver la cause. C'est un mystère. Le mot mystère est même prononcé. Ce qui est important, c'est pas de chercher la cause de l'épidémie. Ce qui est important, c'est de prendre en charge les patients, les soigner, et c'est ça qu'il faut faire dans une épidémie. Dans n'importe quel pays, si on vous dit il y a une calamité et on n'en connaît pas la cause, c'est mystérieux, mais c'est pas grave, ça laisse les imaginations travailler, et donc les villageois commencent à considérer que ce mystère, en fait, c'est des empoisonnements et cherche des responsables. Et il y a eu donc comme ça, finalement, plusieurs dizaines de lynchages qui ont eu lieu au mois de novembre et au mois de décembre 2010.
The head of Haiti's voodoo religion has called on authorities to act after 45 voodoo priests have been murdered in recent weeks after being blamed for causing the Caribbean country's deadly cholera outbreak.
Et ce qui est intéressant, c'est que des scientifiques vont s'emparer de ça. Il y a à ce moment-là une théorie qui est érigée en paradigme, qui dit que le choléra, finalement, c'est une maladie environnementale très liée aux évolutions du climat. Et donc, des scientifiques américains montent au créneau pour expliquer à la presse que tout ça était fort banal. Déjà, ils ne disent pas qu'il n'y avait pas de choléra de toute l'histoire d'Haïti. Ils disent que c'est le retour du choléra, ce qui sous-entend qu'il y avait eu du choléra, mais sans dire quand, comment et pourquoi. Et ce retour du choléra est lié finalement à des anomalies climatiques, peut-être aussi aux tremblements de terre, parce que des glissements de terrain modifient la composition chimique des rivières, et donc ça facilite la prolifération de la bactérie Vibrio cholerae. Ils disent qu'il a fait chaud pendant l'été 2010 et que ça a été l'occasion pour que du plancton se multiplie. et que c'est cette multiplication environnementale qui est à l'origine ensuite de l'émergence du choléra dans les endroits où le vibrio choléré serait le plus à l'aise, c'est-à-dire dans les zones d'eau saumâtre. Et donc commence à expliquer que l'histoire des soldats népalais, c'est juste une rumeur, qu'à l'inverse, quand on réfléchit bien, on comprend bien que tout ça, c'est lié à l'environnement et au climat. L'hypothèse environnementale du choléra est très séduisante, de même que l'hypothèse de la survenue de pandémies liées à la déforestation, parce que ce sont d'abord des hypothèses qui nous ramènent à des problématiques que l'on voit de plus en plus importantes, que je ne conteste pas. Par exemple, pour le choléra, la problématique du réchauffement climatique. Le fait de dire que le choléra est lié à l'environnement et à la température de l'eau, aux proliférations de plancton, etc., donne une explication globale qui correspond à ce qu'on attend finalement. On a ce réchauffement climatique et on attend que ça provoque des problèmes de santé importants. Et le choléra devient assez rapidement l'exemple type, l'archétype de maladie liée à l'environnement. Donc c'est déjà une théorie qui plaît beaucoup. Mais ça ne rend pas compte de l'effet falaise. C'est-à-dire zéro cas jusqu'au 19 octobre et 1000 cas le 20 octobre. Donc quelque chose de complètement inexplicable par cette théorie qui, dans ces cas-là, aurait donné quelques premiers cas et puis ensuite, il se serait transmis d'homme à homme, recontamination de l'environnement et puis progressivement, l'épidémie se lance. L'épidémiologiste doit prendre au sérieux les rumeurs qui disent il y a une épidémie à tel endroit ou il y a eu des cas à tel endroit alors qu'on pense que ça a démarré ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Haïti. Tout le monde a été focalisé sur l'épidémie du delta de l'Artibonite, mais il y avait des centaines de cas ailleurs. Et donc, ce qui était appelé rumeur était quand même une information à vérifier. Est-ce que oui ou non, dans le département du centre, autour de la ville de Mirbalais, il y avait eu des cas de choléra ou des cas suspects de choléra? Et la réponse était clairement oui.
Une épidémie de choléra a enrayé, un pays à reconstruire. Voici les enjeux des élections présidentielles et législatives du 28 novembre.
Dans ce contexte électoral très compliqué, il n'est pas question d'aller devant les journalistes et de dire ben, « Vous savez, finalement, cette histoire-là, c'est pas du tout le climat dans le bas de l'Artibonite, c'est les soldats qui sont arrivés, qui probablement ont eu le choléra, ils ne l'ont pas dit, et ensuite leur fosse septique s'est remplie, et elle a été déversée dans l'Artibonite, et voilà ce qui a déclenché l'épidémie. » C'est compliqué à dire, les gens sont énervés, plus qu'énervés en Haïti, et il est clair que rien ne doit être dit avant le premier tour des élections, parce que c'est déjà très compliqué à gérer. Les élections ont lieu le 27 novembre. Moi, je rentre à ce moment-là. J'écris mon rapport, assez bref, assez factuel, qui explique comment l'épidémie a débuté et qui donc focalise sur une origine liée au camp militaire, au camp Annapurna. Je l'écris sachant que tôt ou tard, son contenu sera connu. Quand on a ce genre de situation, on ne doit pas travailler seul. On constitue une petite équipe et on réfléchit de savoir quelle est la meilleure option. Je ne pouvais pas prendre tout seul cette décision. Je me suis dit, bon, ben, je vais prendre des gens, je vais aller voir à MSF. Il y a des personnes très expérimentées, il y a Véronique Broman, Marie-Pierre Allier et d'autres personnes donc, qui ont beaucoup d'expérience. Et on a discuté et on est tombé d'accord sur le fait que ne rien dire, mentir à la population et mentir à l'opinion publique mondiale était au moins aussi grave que les considérations géopolitiques qui pouvaient nous dire « bon, bah tiens, on va pas leur dire, c'est pas grave, ça va pas changer ». Raconter n'importe quoi à la population n'est pas quelque chose à faire, parce que ça revient en boomerang. La confiance est une valeur clé dans la politique globalement, mais en contexte d'épidémie, c'est indispensable parce qu'on va demander à la population de prendre des mesures, de changer son mode de vie, et s'il ne croit pas à ce qui se passe, ce ne sera pas appliqué. On pèse le pour et le contre et on s'aperçoit qu'il y a nécessité d'obtenir la confiance de la population pour la lutte. On s'aperçoit aussi que mieux connaître la cause permettrait d'éviter des récidives. Et pour toutes ces raisons, on dit il vaut mieux que la population le sache. J'envoie mon rapport à l'OMS qui le transmet à l'ONU. Et l'ONU se trouve face à un rapport que un certain nombre de journalistes reprennent. Disant, il y a un épidémiologiste qui connaît son métier et qui dit que c'est lié à une rotation, à une relève de soldats de l'ONU. Et Ban Ki-moon, donc secrétaire général de l'ONU à ce moment-là, monte au créneau en disant, d'une manière très solennelle, on prend en compte ce rapport, mais c'est pas ce que disent d'autres personnes, mais je pense qu'il faut faire quelque chose, donc Ban Ki-moon décide de nommer un panel indépendant qui va investiguer, qui va faire finalement cette enquête sur l'origine de l'épidémie de choléra. Après avoir dit que ça ne servait à rien, finalement, on va faire ça et les Haïtiens méritent bien qu'on s'intéresse à ce sujet.
Une équipe scientifique est donc mandatée par l'ONU pour enquêter en Haïti. Mais comment s'assurer de la réelle indépendance de cette équipe ? Et sauront-ils rester neutres ?